Alors je vais relire Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors c'est une parole pleine d'espérance ici que nous donne le Seigneur, le Sauveur. Et c'est en même temps un paradoxe, parce qu'un joug, c'est pas quelque chose de forcément agréable à porter. Hein. Vous êtes prisonnier, là, attaché. Hein. Donc c'est cette pièce de bois qu'on pose sur les épaules pour tirer une charge ou une charrue. Et sans aucun doute, on préfère être libre du joug, de tout joug, être comme un cheval, là. Hein, on est allé voir un spectacle avec les enfants hier soir de chevaux. Et voilà, il y avait plein de chevaux, ils étaient assez dressés, donc ça allait. Hein. Mais de temps en temps, il y en avait un, il avait envie de faire un peu ce qu'il voulait. Hein, et c'est ce qu'on voudrait, en fait, être libre comme ça. Mais la réalité, elle est tout autre. Personne n'est totalement sans joug. Et même, il n'est pas bon d'être totalement sans joug. Mais il y a des bons joug et il y a des mauvais joug. Et Dieu, dans ce passage, nous enseigne qu'il veut nous soulager des jougs qui sont pesants, qui sont difficiles, qui blessent, et il veut nous conduire à prendre son joug, celui qu'il veut mettre sur nos épaules. Alors, il commence par dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Il commence par là. Il lance un appel à ceux qui ploient sous un fardeau « Venez à moi. » Jésus est le chemin, il est celui qui nous délivre, la seule personne qui peut faire quelque chose pour nous. Et c'est important de le réentendre et le réentendre ponctuellement parce que naturellement, lorsque nous sommes sous un poids, on peut compter sur quelqu'un d'autre finalement pour nous soulager du joug ou sur nous-mêmes, alors que c'est lui seul qui est capable de nous apporter ce soulagement. Jésus dit « Venez à moi ». Et c'est la première chose qu'il faille faire. Et pourtant, ce n'est pas toujours la première chose qu'on fait quand on est sous un joug, ça peut être, le premier réflexe peut être de se confier à quelqu'un qu'on aime. C'est bien, hein, se confier à quelqu'un qu'on aime. Et c'est normal. Mais le Seigneur dit, venez à moi. Même celui qu'on aime ne peut pas nous soulager totalement de nos joues. Il dit, venez à moi. Venez à moi premièrement. Après, confiez-vous, partagez. Hein, qu'on puisse avoir un réconfort avec un vis-à-vis. Avec un ami, une amie, mais il nous fait la promesse d'un soulagement. Et c'est ce qu'il attend de nous, premièrement, venir à lui. Alors comment on vient à lui? Bien sûr, on vient à lui en priant, hein, en s'approchant de lui, en déversant sur lui ce qui nous pèse, ce qui est dur, ce qui est incompréhensible. On vient à lui en lui disant nos perplexités, nos inquiétudes, nos peines. On vient à lui en lui parlant, tout simplement. C'est lui parler, en fait, hein. Jésus est un ami, il est notre ami, un ami, on lui parle. Alors il veut qu'on lui parle, il veut qu'on prenne le temps de lui parler. Et donc c'est sur les genoux qu'on vient à lui, et c'est sur les genoux aussi qu'on peut trouver un vrai soulagement. Venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est même un engagement du Seigneur, il s'engage. Il dit, venez à moi et je vais le faire, je vais vraiment le faire. Ailleurs dans la Bible, Dieu nous a promis un repos, quand il nous l'a partagé hein, dans l'Épître aux Hébreux, quand il dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et donc, il y a un repos qui est pour nous. Il est spécialement pour nous. Et ce repos, il ne se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Quand on accepte le Seigneur, on le laisse rentrer dans notre cœur, dans notre vie, alors, eh bien, il veut nous donner ce repos. On lui remet notre vie, il nous donne la sienne, et dans sa vie, il y a un vrai repos. C'est un peu comme si vous portez une lourde charge, et puis à un moment, vous l'enlevez, vous la déposez, qu'est-ce que ça fait du bien? Eh bien, venir au Seigneur, déposer sa charge, et être soulagé, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Le repos de sabbat, c'est donc vivre de la vie de Jésus-Christ. Et c'est un vrai repos parce qu'il est notre chef. Et donc, c'est lui qui donne les ordres. Vous savez, c'est reposant d'être sous quelqu'un qui va donner un ordre. Et vous savez que c'est le bon chef, hein, le bon berger, Dieu, et vous dit, fais ça. Oh, il n'y a plus qu'à le faire, hein, sans inquiétude. C'est aussi de lui qu'on reçoit les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce n'est même pas nos œuvres, c'est les siennes. Elles sont toutes préparées, elles sont faites. Hein. Et par lui, il nous rend capables de les faire. Donc, ce n'est même pas nous qui les faisons, c'est lui qui les fait au travers de nous. C'est un vrai repos, ça. Pas besoin de s'agiter dans tous les sens, non ? Simplement se reposer, faire ses œuvres. C'est de lui que vient également la sagesse pour prendre les décisions. C'est lui qui apporte les solutions par rapport aux difficultés de la vie quotidienne. On vient de le voir avec Nadège qui vient nous partager, recevez ses instructions. Hein. Donc, de lui vient la sagesse et les solutions. Et donc, quand on vient vraiment à lui, on peut trouver, on trouve réellement un repos en Jésus. L'enfant de Dieu, il peut avoir constamment la certitude que Jésus s'occupe de tout. Il veut s'occuper de tout. Mais ce qu'il a besoin, c'est qu'on vienne à lui pour que vraiment il puisse s'occuper de tout. Il faut lui laisser les coups des franches. Il faut dire, je ne m'en occupe pas, je te fais confiance. Si tu me dis de faire quelque chose, je vais le faire, mais je te fais confiance. Alors, ben, Jésus s'en occupe. C'est merveilleux. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin quand ça ne va pas. On a besoin de lui faire confiance. Il a promis, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Vous connaissez ce verset, hein ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, allez-y avec moi. Vos besoins à Dieu, par des prières, tu vas trop vite mon mot, par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est important. Dieu nous a donné un vrai repos de Sava pour qu'on soit réellement dans le repos. Et le repos nous est acquis parce que Jésus l'a payé. Il a tout payé pour qu'on puisse accéder, recevoir, avoir ce repos dans la vie quotidienne. Ce que Jean-Claude nous partageait. Hein? On l'a ce repos, il est à nous. Il faut simplement y entrer et y rester. Parce que des fois on y entre, on en ressort. Et on revient, et puis non, il faut y rester. Être dans le repos. Et on peut dire que d'une manière générale, la vie est difficile. Nous sommes dans un monde qui est déchu, un monde qui souffre. Et donc la vie, elle est difficile. La vie est difficile. La vie professionnelle est difficile. La vie familiale, parfois, est difficile. La vie de couple est difficile. La vie avec les enfants, c'est difficile. La vie ecclésiale, parfois, c'est difficile. C'est difficile. Mais Christ veut nous aider à traverser les difficultés et qu'on soit dans le repos, dans le calme. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce que c'est bon ça ? Je suis doux, humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est assez étonnant que Jésus nous dise de venir à lui pour prendre son joug, et c'est comme ça que l'on va trouver du repos. C'est étonnant parce que, ben, encore une fois, ce joug, c'est une pièce de bois qu'on va porter. Hein. Mais Jésus dit que son joug est doux. Quand j'imagine ce joug, j'imagine un joug qui est tout poli, vous savez, parce qu'il a été tellement porté, quoi, il est tout lisse, hein, il ne blesse pas. Et quelle que soit notre vie, si on est fatigué et chargé, c'est souvent parce qu'on porte un autre joug. Ce que Francisco partageait, vous m'avez fait mon message. Hein? C'était bien. C'est dans nos cœurs, ça. Hein? Mais c'est vrai qu'on porte souvent un autre joug. Un joug qui finalement nous fait mal. Ça nous blesse. Par exemple, il y a le joug de la servitude du péché. Et j'aimerais juste prendre un court verset dans Lévitique. Il va être affiché derrière si jamais vous voulez le lire. Lévitique 26, 13, où il est dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Donc ce passage nous parle d'Israël, Israël qui étaient sous l'esclavage de l'Égypte et donc liés à leurs conditions d'esclaves. Pharaon était en train de les dominer. C'était un joug qui était pesant, blessant, physiquement, psychologiquement. Mais Dieu a brisé les liens de leur joug en les délivrant par Moïse. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai brisé les liens de votre joug. » Et on a là une image de la servitude du péché. Le péché est comme un joug là qui nous tient, et ce n'est pas Pharaon, mais c'est le diable qui nous tient. Il peut nous tenir avec plein de sortes de convoitises diverses, avec Internet, la pornographie, avec les dépendances, avec le tabac, avec les drogues, avec l'alcool, avec l'argent, avec le pouvoir, avec d'autres choses. Et on est pris comme ça, sous ce joug. On est la tête baissée, fatiguée, chargé, accablé. Mais il dit, voilà, moi je brise les liens de votre joug et je vous fais marcher la tête levée. La tête levée. La Bible parle aussi du joug de la loi. Galates 5.1. Galates 5.1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ici, le joug dont il parle, c'est le joug de la loi. Et si la loi, c'était quelque chose qui était nécessaire pour éduquer l'humanité, elle n'a pas pu amener l'homme à la perfection. La loi est bonne, la loi est sainte, dit Dieu dans sa parole. Mais la loi ne donne pas la force, la puissance de l'accomplir. Et donc, elle ne pouvait pas amener à la perfection. Elle ne fait que dire, fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Mais débrouille-toi, fais-le toi-même, ou ne le fais pas toi-même. Alors Dieu a préparé quelque chose de meilleur, il a préparé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la loi. Lui, il a accompli la loi d'une manière parfaite, sans jamais pécher. Il a vécu une vie irréprochable. Et donc, il nous accorde la justice de la loi. C'est la justification, en fait. Il nous donne cette justification. Mais si Paul est en train de secouer les Galates, c'est qu'il y avait des hommes qui disaient, mais non, il faut vous faire circoncire, il faut repratiquer la loi, en fait. Hein. Alors Paul dit, non, 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 ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la loi. Et en tant que chrétien, c'est possible aussi de retomber sous la loi. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas là. Et le résultat, ça ne conduit pas à une plus grande sainteté, mais ça conduit à un asservissement, un autre asservissement. Et puis, on est accablé. Alors, c'est vrai que parfois, vous voyez des vies, elles sont bien réglées. Tout semble aller correctement, mais c'est par leur propre force que tout est maintenu. Puis un jour, ça craque. Et là, on se dit, oh, mince. Hein? Alors que si c'est Christ qui tient, parce qu'on est dans le repos et c'est lui, c'est différent là. C'est beaucoup plus facile. Il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible parle également du joug des incroyants. Regardez 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Il va être affiché aussi. Où il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres. Et malheureusement, un enfant de Dieu peut choisir de se placer sous un joug étranger, c'est-à-dire se lier avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne l'a pas accepté, qui n'est pas sauvé. Et donc, il va se rendre prisonnier d'un joug qui va le mener là où il n'a pas forcément envie d'aller. L'enfant de Dieu, il a envie d'aller vers la sainteté, vers l'obéissance, vers la parole de Dieu, vers la prière, vers la communion. Et puis l'autre dit, ben non, moi je n'en ai pas très envie. Et puis il va tirer de l'autre côté. Alors qu'est-ce que ça provoque? Des tensions inutiles, des frictions, de la peine, des heurts. Et très vite, le joug devient pénible. Ça peut aller à un moment, et puis hop, d'un seul coup, les voies divergent, et là ça devient pénible. Et après, eh bien, l'enfant de Dieu peut se dire, mais tout devient difficile dans les relations. Avec les amis, c'est difficile, parce qu'on n'a peut-être pas forcément les mêmes amis maintenant. Dans le couple, hein, dans l'éducation des enfants, s'il y en a, dans les relations avec la famille, avec les parents, tout peut devenir très difficile. Mais une fois qu'on est marié, c'est définitif. Et là, ça engage. Hein. Alors c'est vrai, parfois Dieu peut faire grâce. Il le fait parfois. Mais il ne nous dit pas « tentez votre chance hein. ». Il nous dit « ne vous mettez pas ». C'est-à-dire le risque est avéré. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, parce qu'il y aura beaucoup de souffrance. Parfois, le joug est professionnel. On peut avoir un mauvais employeur qui nous en fait baver toute la semaine. Alors, Paul ne parle pas du joug professionnel, mais il parle du joug de l'esclavage, et d'une certaine manière, on peut prendre ce parallèle entre maître et esclave, employeur, employé. Alors, c'est sûr, ce n'est pas un esclavage c'était le cas, mais néanmoins, il peut y avoir des emplois ou situations professionnelles où ça devient vraiment difficile. Alors, Paul dit, 1 Timothée 6:1, il dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et même si ce n'est pas donc un esclavage, ça peut être quand même un joug pénible d'avoir un emploi qui nous lie. Rien à voir avec les esclaves de l'époque, mais quand même une situation professionnelle qui est difficile. À noter que Dieu ne dit pas que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage brisent leur joug, qu'ils s'affranchissent de tout lien. On pourrait dire, mais Seigneur, ben non, il ne dit pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des joues qu'il faut aussi que l'on supporte. Il y a des joues, il faut s'en libérer. Et puis, il y a des joues, il faut les accepter dans notre vie. Ici, on a un exemple avec ces chrétiens de l'époque. Dieu leur demandait d'honorer leur maître. C'est quelque chose, hein. Et de rendre finalement un bon témoignage chrétien qui glorifiait le Seigneur. Ça signifie que Dieu peut aussi mettre un joug sur les épaules et nous demander de le porter ou de le supporter. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu va reprendre Israël au sujet d'un joug qu'il ne voulait pas porter. C'était le joug du roi Nebuchadnezzar. Dieu avait mis ce joug sur eux, mais ils ne voulaient pas le porter. Alors, le châtiment était résolu de la part de Dieu. Il a dit, puisque vous ne voulez pas porter ce joug, je vais vous châtier. Il fallait que Sédécias, roi de Juda, l'accepte, sinon, ça n'allait pas bien se passer. Et le prophète Jérémie s'est même fait un joug de bois pour illustrer la parole prophétique. Il a porté ce joug en disant, mais regardez, Jérémie 28, 2 à 4. Comme il ne voulait pas porter ce joug, alors, il y a un prophète qui s'appelle Anania de Gabaon. Il a dit cette parole, Jérémie 28, 2 à 4. Il a dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone, encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Donc Anania, ce prophète, a dit, mais non, c'est n'importe quoi ce joug, pas de problème, je vais briser ce joug. Et il a même joint le geste à la parole, puisqu'il a pris le joug que Jérémie s'était fait pour illustrer ce que Dieu voulait dire, et il a brisé le joug par terre. Mais un peu plus tard, Dieu a donné cette parole pour Anania. Regardez versets 13 et 14, même chapitre, un petit peu plus loin. Il a dit à Jérémie, « Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois, tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Et là, on a un exemple concret de ce qui peut se passer si on n'accepte pas le joug que le Seigneur peut nous imposer. Alors, c'est quelque chose qu'on souhaite pour personne, Mais c'est Dieu, hein, c'est lui qui le fait. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas changer d'employeur si jamais quelque chose ne va pas. Ce n'est pas la question. Hein. Mais ça illustre simplement qu'il y a certains jougs qui sont permis par Dieu, que Dieu veut mettre sur nos épaules et qu'il faut accepter. Accepter. Plus tard, Jérémie va écrire une autre parole dans ses Lamentations. Lamentations 3, verset 27. Il dit « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ça veut dire qu'il y a aussi des jougs qui sont bons, qui sont salutaires, qui sont bénéfiques. Quand on pense aux enfants, premièrement, ils sont de fait sous le joug de leurs parents. Et c'est bon, heureusement. Ça les garde, ça les préserve. C'est une bénédiction d'être sous le joug de ses parents. Il faut l'accepter. Hein. C'est comme ça qu'on peut apprendre à pousser droit. C'est comme ça qu'on est préservé de notre folie aussi. C'est aussi valable pour certaines étapes de nos vies. Dieu peut imposer un joug pendant un temps parce que c'est bon, c'est nécessaire, c'est bénéfique. Hein. Et le joug va nous apprendre à nous soumettre hein, finalement à la volonté d'un autre, hein, à nous placer devant des contraintes. Hein. Et il faut savoir eh bien, accepter ces joues et les reconnaître. Dire, oui, ça c'est un joug que Dieu permet. Jésus dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Aussi, c'est intéressant de voir que le joug que Dieu va vouloir imposer à Sédécias et les nations alentour, dans un premier temps, c'était un joug de bois. Et Dieu promettait donc, s'il se soumettait à ce joug-là, c'est-à-dire s'il se pliait à la volonté du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, alors tout irait bien. Il dit, vous allez pouvoir vivre, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce qu'il faut. Certes, vous serez prisonnier, mais avec une marge de liberté. Et donc, on peut dire, le premier joug était léger. Il était léger. Mais c'est ensuite le refus de ce joug qui a conduit à un autre joug, un joug de fer. Mais ça, c'est pas ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Le but, c'est pas de nous écraser sous un joug. Le but, c'est plutôt de nous faire accepter un joug qui est doux et qu'on le suive. Donc, 7 siècles plus tard, le Seigneur dit, mais prenez mon joug sur vous. Il est doux. Il est léger. C'est un joug qui est doux parce que le Seigneur, d'abord, le porte avec nous, bien sûr. La charge, elle repose sur lui. Et nous, simplement, ben, on le suit. Disons qu'on est, retenu hein, de chaque côté. Mais toute la charge est portée par le Seigneur. On peut dire que ses épaules sont larges. Sa force est puissante. Son énergie est inépuisable. Tout ce qu'on a besoin, c'est de rester près de lui. Forcément, si on tire trop d'un côté, ça dérange, hein. Mais si on reste bien collé à lui, alors c'est plus facile. Il le porte et nous, on le suit pas à pas. On n'est pas exempt du joug, mais on est exempt du poids du joug. Ensuite, quand on porte le joug à côté du Seigneur, on apprend énormément. Parce que forcément, quand on porte un joug avec quelqu'un, ben on est collé. Quand vous prenez deux bœufs qui tirent, ils sont pratiquement collés ensemble. Et nous, quand on se met sous le joug du Seigneur, eh bien, on est proche du Seigneur. On est à côté de lui, on entend sa voix, on obéit à sa voix, on apprend à dépendre finalement de lui. Et pour apprendre de quelqu'un, nécessairement, il faut être proche de cette personne, il faut passer du temps avec elle. C'est là où, petit à petit, en restant à côté de lui, ben, il nous transforme à sa ressemblance, parce que ben, on va suivre ses pas, et donc on va ressembler à Jésus, puisqu'on est avec lui. Lui aussi, il est descendu sur terre pour faire non sa volonté, mais la volonté de son Père. Il est dit que Jésus ne faisait rien de lui-même. Rien de lui-même. Pourtant, il avait un lui-même. Il avait une âme. Il avait une volonté. Il ne faisait rien de lui-même. Et on peut dire que d'une certaine manière, il était sous le joug de son Père. Mais il suivait son Père. Et c'est pour ça qu'il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je reste sous ton joug, je fais ta volonté. même si c'est difficile. Ensuite, Jésus a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et donc, dans cette proximité, on apprend à l'écouter et on reçoit ses instructions. Il nous dit ce qu'il faut faire. Prendre le joug du Seigneur, c'est le contraire de faire sa propre volonté et de suivre ses propres idées. C'est se laisser conduire. Il dit, « Va à droite. » « Ok, Seigneur. » « Va à gauche. » « Ok, Seigneur. » C'est apprendre à rester dans la main de Dieu. Ça nous apprend. Vous savez, hier soir, quand on allait voir ce spectacle, il y a une femme qui est entrée dans l'arène avec un magnifique cheval marron, superbe. Et puis, elle lui a enlevé tout son harnais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, le cheval était libre. Libre. Et simplement, eh bien, elle a montré comment elle le dirigeait. C'était impressionnant parce que le cheval pouvait essayer de se sauver ou courir ou faire ce qu'il voulait, hein, mais il lui obéissait parfaitement. Elle lui disait « Arrête !» Il ne bougeait pas. Puis elle reculait, puis elle faisait ça, hop, il avançait. C'était impressionnant. Ensuite, elle courait, donc elle n'avait pas de corps ni rien, elle courait en avant, elle avait juste comme une petite cravache, mais elle le maintenait en avant. Et le cheval courait derrière elle. Et la difficulté, c'est un cheval, quand il court, il a envie de courir. Donc, vous courez, lui. Mais c'est courir juste derrière elle et ne pas la dépasser. Et ça me fait penser au Seigneur, ça. Hein? Seigneur avance, je ne le dépasse pas, je reste derrière lui, je mets mes pieds dans l'empreinte de ses pieds, je fais sa volonté. C'est ça qui est important. Et finalement, ça illustre bien ce que c'est un chrétien qui est dans la main de Dieu. Il sait que c'est le meilleur. Donc, il peut se sauver, mais il n'a pas envie. Il veut rester là, dire « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux t'obéir. » C'est là où on développe une profonde confiance dans le Seigneur. Après, on sait par expérience que vraiment son joug est doux et son fardeau est léger. On sait aussi que sa volonté est la meilleure que la nôtre. En fait, tant qu'on n'a pas fait l'expérience que sa volonté est meilleure que la nôtre, alors on veut sortir sans cesse. Et puis on se blesse, on se fait mal, on fait des erreurs, etc. Alors, voilà. Finalement, au bout d'un moment, on capitule. On dit, Seigneur, bon, c'est bon. Je sais ce que c'est que de faire sa propre volonté. Maintenant, je veux faire ta volonté. Je veux rester là. Et là, c'est la paix. Là, c'est le chemin qui mène à la vie. Jésus ajoute, « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Doux et humble de cœur. Il n'est pas un maître dur, un seigneur qui veut nous broyer, mais il est doux, il est humble. Il ne blesse pas. D'ailleurs, c'était intéressant parce que donc c'était c'était un centre équestre et c'était des amateurs. Donc, ils ont prévenu, hein, on est des amateurs, c'est la première fois qu'on fait ce spectacle, etc. Mais à un moment, la personne qui présentait a dit, parce qu'elle a introduit des personnes du public qui devaient tirer les chevaux pour faire un petit jeu. Et elle a dit, on ne brutalise pas le cheval. On ne le tape pas, on ne fait rien, vraiment. C'était au bon vouloir du cheval, en fait. Et voilà, ils ont appris à conduire leurs chevaux et à les élever d'une manière à ce qu'ils aient envie de le faire. Et le Seigneur, eh bien, il ne nous brutalise pas non plus. Il veut simplement qu'on y aille de bon gré, qu'on fasse sa volonté. Et la promesse est là. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le repos n'est pas sous les joues qu'on se choisit seul. Il n'est pas non plus sous le joug du péché, sous lequel on peut tomber, mais il est sous le joug de Christ. C'est là où on goûte sa paix, sa douce paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.